Au quotidien, avec Hélène Denis.
Avril 2026, ouais, les impôts sont faits, Mathieu?
Oh oui!
1er mai demain, déjà, ça va vite, vite, vite. Alors, j'espère que vous allez bien en cette journée plutôt grise, puis, mais on gèle pas, là, encore. Paraît-il que les températures vont chuter dans les heures qui viennent, mais enfin... C'est comme ça la vie, hein, des hauts et des bas, les montagnes russes.
On est encore en avril, hein?
Oui, oui, et en avril...
Se découvre pas
de... Ne te découvre pas.
Ah non, mais moi je suis inclusif.
OK.
J'inclus tout le monde.
OK, ben moi aussi d'abord. Bon, alors comment de bord s'en vient en musique avec une nouveauté? Et juste avant, ben celui qu'on a entendu rigoler, c'est Yvan Deslauriers. Ça va bien, Yvan?
Ben oui, ça va bien. Les Canadiens ont gagné, hein?
Oui! 3-2.
J'ai l'impression que je vous annonce quelque chose.
Non, je le savais. C'est parce que je sortais du spectacle de Michel Rivard complètement bouleversée et enchantée. Et puis, il faisait doux. Alors, j'ai ouvert mon toit. Puis, je suis passée sur Saint-Denis. À un moment donné, j'ai entendu « Yeah! » Il venait de compter le... Attends, c'était le but qui faisait en sorte que les Canadiens menaient. Mais jusqu'à la dernière seconde, on était-tu énervé? J'écoutais ça à la radio.
Alors, vendredi soir, là, essayez pas de vous promener autour du Centre Bell sans préparation parce qu'il va y avoir du monde.
Ça, c'est sûr. Ça se passe à Montréal vendredi et puis oui. Le Lightning fait face à l'élimination. On va suivre ça. Alors, Yvan, aujourd'hui, vous allez nous parler du défi sportif Altergo en vous concentrant sur une athlète.
Oui, sur Alison Levine. Je suis quasiment sûr, je pourrais gager mon bras droit probablement, que Dominique Tremblay vous en a déjà parlé plus qu'une reprise. Parce que Dominique est impliqué dans le boccia et il connaît très bien Alison Levine.
Mais oui.
Donc, c'est un article qui parle du boccia, évidemment, pour mieux vivre avec la maladie. C'est intéressant parce que elle nous raconte la progression de sa maladie, d'une part, et d'autre part, sa progression à l'intérieur des sports pour personnes handicapées qui l'a mené éventuellement au boccia. Et elle est une vedette du boccia international.
Merci. Bonjour Monique.
Bonjour Hélène.
Aujourd'hui, la nature qu'on aime tant, que vous aimez beaucoup aussi. Alors, la nature qui ferait du bien au cerveau.
Oui. Ah oui, c'est du bien au cerveau. En fait, il se passe des choses dans notre cerveau oui. lorsque l'on regarde la nature et même la nature en photo. Alors, je pense que nous tous, on se sent mieux hein, quand on est en nature
ah,
ou
oui.
quand on regarde une belle photo de la mer. Qu'est-ce qui fait que notre cerveau nous dit « sentez-vous bien, absorbez toute cette beauté ». C'est ce que nous révèle la chercheuse Mar Estarayas qui s'est joint à deux autres chercheurs pour justement voir comment ça se passait dans notre cerveau pour qu'on se sente bien.
On va en savoir davantage autour de 10h, 10h03, merci. Et puis, qu'est-ce qu'on aura aussi au menu? Dominique Tremblay, notre reporter officiel qui est de retour pour nous parler des plus récentes nouvelles concernant le 43e défi sportif Altergo. Nous aurons aussi la chronique Actualité internationale avec François Larochelle, ancien diplomate du Canada, qui nous parle de la Hongrie aujourd'hui, qui a changé de premier ministre. Et puis, il y aura plusieurs chansons qui font partie des Franco-folies, une façon de parler, parce que les Franco ont annoncé leur programmation cette semaine. Il y aura, entre autres, Laurent Voulzy, qui sera au Théâtre Maisonneuve le 12 juin. Comment d'abord y était l'année passée, mais c'est parce que là, ils viennent de nous proposer une nouvelle chanson qui va peut-être faire défriser Monique. Coucou, comment ça va?
sa fin.
Je reviens.
J'ai entendu parler un peu autour de moi. J'étais content pour toi, moi ce fin. Ah. Je prends des marches sous fin, je fais au cinéma. Qu'est-ce qu'il y a? Des fois de penser à ça. Oh, me semble, ça fait encore du sens. Qu'est-ce que t'en penses? On reviendrait ensemble. Coucou, c'est encore moi. Public. Je l'ai dit à mon monde, c'est dramatique. J'ai reconnu ton nom dans un générique. J'ai cru comprendre que c'était psychologique. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà vu ça.
Alors, c'était comment de bord dans Coucou. Comment ça va? Est-ce que l'expression fautive, ça fait du sens, est en train d'entrer dans l'usage? Parce qu'on entend beaucoup, ça fait encore du sens dans cette chanson, Monique.
Oh oui, Hélène. Vous avez raison, j'ai défrisé du côté droit, là.
Bon, bien, j'allais dire, prenez votre gaz égal. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, bien, on se retrouve tantôt. Oui, et puis vous allez avoir une capsule linguistique. Hein. Vous n'allez pas parler de l'expression « ça fait du sens », mais d'une autre expression fautive qu'on entend pas mal quand même. Oui. À tantôt.
À tout à l'heure.
À la une du devoir de ce 30 avril, médecine familiale, patientèle à la baisse, facture à la hausse, les omnipraticiens voient de moins en moins de patients inscrits individuellement et de plus en plus de patients inscrits collectivement, dont les suivis sont plus coûteux pour l'État. La RAMQ, qui est la Régie de l'assurance maladie du Québec, calcule que les inscriptions collectives coûtent deux fois plus cher à l'État. On voit des gens à vélo, à la une du Devoir. Le vélo en plein essor au-delà du loisir. Le vélo est en train de devenir un pilier des transports urbains, alors qu'il gagne en popularité pour les déplacements du quotidien. Le vélo s'impose comme un moyen de transport plutôt que d'être un simple loisir du dimanche. Plus de 2,7 millions de Québécois, soit 6 adeptes du vélo sur 10, ont pédalé pour se rendre au travail, à l'école, chez des amis ou au supermarché en 2025. Il s'agit d'une hausse de 28 % chez les cyclistes adultes et de 24 % chez les enfants et les adolescents en tout juste 5 ans. Cette augmentation marquée de la pratique du vélo utilitaire coïncide avec l'aménagement d'une série de pistes cyclables à Montréal et ailleurs à compter de l'année 2020. Dans la foulée de la pandémie, note l'état du vélo au Québec en 2025 dévoilé ce jeudi, aujourd'hui. Ce portrait de la pratique cycliste est publié tous les 5 ans par Vélo Québec. Le seconde main, dis-je bien, fait peau neuve. La Fibre Atelier veut séduire de nouveaux acheteurs en remettant à neuf les invendus des magasins Renaissance. Malgré l'essor du seconde main, l'achat de vêtements neufs ne ralentit pas et les centres de dons débordent. Pour y remédier, Renaissance ouvrira dans les prochains jours à Montréal La Fibre Atelier, une boutique où les invendus de ces friperies obtiennent une seconde chance de trouver preneur après avoir été remis en état. En proposant une expérience plus proche du magasin traditionnel, l'organisme espère convaincre une nouvelle clientèle de troquer le neuf pour l'occasion. Et puis, à la une du Journal de Montréal, devinez de quoi il est question. Oui, de hockey du Canadien. Le Canadien pourra éliminer le Lightning demain. L'effet Gallagher, l'attaquant du Canadien, a donné le ton au match en marquant le premier but hier. Et puis, on parle de hockey également à la une de la presse plus. Le gros bout du bâton, Gallagher, Marc Dobèche, se dresse et le tricolore est à une seule victoire d'accéder au prochain tour. On parle aussi du salaire minimum qui passe à 16,60 $ dès demain au Québec. Aussi de Charlotte Cardin qui est à la une. Charlotte Cardin qui donne ce soir à Paris son plus grand concert à vie. Ça va se passer à l'Accord Arena de Paris qui accueille 16 000 personnes. On lui souhaite un bon spectacle et coup de pied et volée de coups. La violence envers le personnel de la santé et des services sociaux est en forte hausse. C'est un article de Daphné Cameron qui est inquiétant.
Passer, séparer petit enfant.
Beau voyage avec Laurent Voulzy qui sera à Montréal le 12 juin à l'occasion des Franco au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. On parle d'une athlète d'exception avec vous, cher Yvan, Alison Levine.
Alison Levine, oui, des sources bien informées m'ont dit que je prononçais mal son nom tantôt. Alors, c'est corrigé maintenant. Donc, Alison Levine va nous parler du boccia et de sa progression elle-même dans le sport qui est le boccia. Maintenant, juste pour m'assurer qu'on est tous sur la même ligne de départ, qu'est-ce que le boccia? Le boccia, c'est un sport qui s'apparente à la pétanque.
Oui.
Ça se joue à l'intérieur sur une surface lisse avec des balles en cuir de couleur. Il y a six balles rouges et six balles bleues. Et évidemment, il y a une espèce de cochonnet. Dans le site que j'ai regardé, il appelle ça un jack. Un cochonnet blanc. Le jeu, c'est tout simple. C'est un sport en duel où le but est de marquer le plus de points que son adversaire sur quatre manches en un temps réduit. La boccia, qui est écrit, c'est un site...
Je sais pas. On peut dire les deux, selon Dominique, oui.
Okay. Tremblay. Donc, allons-y pour le masculin dans ce cas ici. Le boccia peut se jouer en individuel, en double et en triplette, qui est écrit.
Bon. Et Yvan, c'est pas pour me vanter, là, mais j'étais à la cérémonie d'ouverture du défi sportif Altergo lundi au Centre Claude Robillard. Et puis, oui. J'ai eu un petit cours de boccia. J'ai beaucoup aimé ce sport-là, de la médaillée de bronze qui était hyper sympathique.
Bravo, bravo, je suis envieux. Donc, c'est un article qui était dans la presse d'hier, je pense, ça. Oui, c'est ça. Dans la presse d'hier, sous l'écriture de Catherine Harvey-Pinard.
Non, c'était ça, pas c'est... hier, c'était le 28 avril, pour être un peu têteuse, là, mais c'est ça.
Non, c'est bon. C'est juste que c'était écrit dans mon... Peu importe. Sur l'article que je regarde, c'est écrit « Publié hier à 7 heures ». C'est pour ça que j'ai été confus. Le défi sportif Altergo, le boccia pour mieux vivre avec la maladie. Le défi sportif Altergo, cet événement international annuel de sport adapté, réunissant des centaines d'athlètes de dizaines de pays, se déroule jusqu'à dimanche, à Montréal. Dans ce groupe de gens inspirants se trouve Alison Levine, une Montréalaise qui, grâce au sport, a réalisé qu'elle aussi avait un avenir. Alison Levine a d'abord perdu l'usage de ses jambes à l'adolescence. Son tronc a ensuite été affecté, puis ses bras. Année après année, depuis près de 15 ans, le sport l'aide à affronter les défis psychologiques qui ont accompagné son diagnostic de maladie dégénérative neuromusculaire. Et à 35 ans, après 3 participations aux Jeux paralympiques, elle fait toujours partie de la crème des joueuses de boccia. Alison Levine avait 12 ans quand elle a commencé à ressentir une faiblesse au pied droit. Elle perdait l'équilibre et était incapable de bouger son gros orteil. Elle dit, tranquillement, ça a dégénéré. Ça a commencé dans l'autre pied, l'autre jambe. Et évidemment, elle a passé des tests médicaux. Son médecin de l'époque était cependant convaincu que le problème était psychologique, dans sa tête. Il disait que si j'avais vraiment besoin de marcher, j'allais marcher. Alors, ils ont enlevé mes béquilles, m'ont forcé à marcher, mais clairement, ça n'a pas marché. À l'adolescence, donc, Levine se déplaçait avec des béquilles et des orthèses pour les jambes. À l'âge de 20 ans, alors que sa condition commençait à l'affecter beaucoup plus, elle a consulté de nouveaux médecins. Ceux-là ont enfin mis le doigt sur le problème. Elle était atteinte d'une maladie dégénérative neuromusculaire provoquant une faiblesse et des spasmes dans ses muscles.
Ouais, c'était loin d'être dans la tête, hein?
C'était très loin de la tête, non, mais oui, ça venait pas de la tête, effectivement. Petit à petit, Alison Levine perdait le contrôle non seulement de ses membres, mais aussi de sa vie et de son corps. C'est pour ça qu'elle a commencé les sports adaptés. Levine a d'abord pratiqué l'équitation, mais la faiblesse qui s'est installée dans son tronc l'a forcée à se retirer. La jeune femme avait cependant eu le temps de comprendre une chose bien importante. Le sport lui donnait une identité. Elle ressentait désormais le goût de compétitionner. Elle s'est donc tournée vers un autre sport, le basketball en fauteuil roulant. C'était ma première initiation à un sport adapté. Pas juste ça, c'était ma première introduction à la vie du monde qui vit avec des handicaps. Elle nous dit, « Je ne savais pas que les personnes qui vivent avec des handicaps peuvent avoir des vies normales et autonomes. » Le basketball en fauteuil roulant lui a permis de découvrir toute une communauté de gens qui, comme elle, vivent avec une limitation. C'est là que j'ai commencé à sentir qu'il y avait un avenir pour moi, que peu importe ce qui arrive, ça va être correct. Chaque fois que sa maladie progressait, Alison Levine devait changer de sport. Elle est passée du basketball au rugby en fauteuil roulant, un sport qu'elle a adoré. C'est par la suite qu'elle a découvert, par pur hasard, le boccia. Elle se souvient d'ailleurs de la date précise, le 8 décembre 2012. Cette journée-là, Alison Levine était bénévole pour un tournoi de rugby en fauteuil roulant. À une extrémité du gymnase, elle a remarqué un homme venu présenter le boccia, un sport adapté de précision et de stratégie destiné aux gens avec un handicap moteur sévère. En fin de journée, alors que l'homme s'apprêtait à partir, Levine a timidement demandé à lancer les balles. Elle ignorait que l'homme en question était en fait Marco Dispaltro, membre de l'équipe nationale canadienne. Je pense qu'avec la manière dont j'ai lancé, il a réalisé qu'il y avait peut-être une possibilité. Tout de suite, son attitude a changé. Il m'a demandé quel était mon handicap. Le moment où j'ai dit que j'avais une maladie dégénérative, il était tellement content. C'est drôle à dire. Levine a rejoint l'équipe du Québec en 2013, puis l'équipe canadienne en 2014. Il faut se souvenir que son premier contact avec le boccia, c'était le 8 décembre 2012.
Ouais.
Alors, ça se passait vite, là. Au fil des années, elle s'est imposée comme une des meilleures au monde. Elle a d'ailleurs déjà occupé le premier rang mondial dans sa catégorie en BC4, ses limitations fonctionnelles sévères sans paralysie cérébrale. Et elle a pris part aux Jeux paralympiques à 3 reprises. Et elle vise d'ailleurs une médaille à Los Angeles en 2028. Aujourd'hui, la Montréalaise est une vétérane du boccia. Comme elle continue à perdre de l'autonomie, elle doit continuellement s'adapter, mais elle se dit encore capable de lancer. Le sport, dit-elle, est ce qui l'aide dans l'aspect psychologique d'avoir une maladie dégénérative. Elle dit, « Je suis convaincue que si je ne jouais pas au boccia, j'aurais dégénéré beaucoup plus vite », laisse-t-elle tomber. Alors, Alison Levine participe à la Coupe du monde de boccia dans le cadre du défi Altergo jusqu'à dimanche et la compétition a lieu à l'Arena Maurice Richard. C'était un article de Catherine Harvey-Pinard dans La Presse. J'ai un petit peu de temps. Pour mes brèves, j'ai des mythes sur l'activité physique.
Vous avez des mythes, pauvre vous.
Oui. M-I-T-H-E, oui. Évidemment. Et donc, le mythe numéro 1, il faut bouger de façon intense pour que ce soit bénéfique. Alors, c'est un kinésiologue qui nous parle. Il dit, on a longtemps associé, sur le site montougo.ca, on a longtemps associé l'activité physique à l'effort visible, respirer fort, transpirer, sentir que ça travaille. Comme si, sans cette preuve quasi olympique, ça ne valait pas la peine. Comme si une marche de 20 minutes en bavardant avec une amie au téléphone, ou mieux encore en personne, ça ne comptait pas. En réalité, le simple fait de briser la sédentarité apporte déjà des bienfaits importants. Rester en position assise moins de 8 heures par jour contribue notamment à réduire le risque de maladies chroniques et de mortalité prématurée. Oui, juste ça. Les activités à intensité faible ou modérée, marche rapide, vélo tranquille, nage douce, soutiennent elles aussi la santé et surtout, elles donnent envie de recommencer. Car c'est là que tout se joue, dans la régularité.
La constance.
Une activité agréable, qu'on répète, semaine après semaine, aura beaucoup plus d'effet qu'un élan de motivation qui s'éteint dès février et qu'on ne renouvellera qu'au prochain 1er janvier. Bien sûr, une intensité plus élevée peut être bénéfique, mais en faire trop vite, augmente le risque de se blesser et celui d'abandonner. Pour celles et ceux qui souhaitent en donner un peu plus, les activités par intervalle permettent d'augmenter l'intensité graduellement sans brusquer le corps. Alors, une activité par intervalle, par exemple, lors de la marche, on peut marcher à rythme régulier et puis pour une trentaine de secondes ou bien jusqu'au prochain coin de rue, on peut se mettre à marcher de façon très rapide.
On peut même courir si on peut?
Si on peut, puis si on veut, on peut même courir. Puis, à l'autre coin de rue, on revient à une marche tranquille. D'ailleurs, c'est très bon pour le cœur, ces changements de rythme-là. Ça permet au cœur de se solidifier pour pouvoir mieux faire son travail.
Oui, vous savez de quoi vous parlez, vous.
Ouais, mais il y a eu d'autres effets. Il y a eu d'autres choses qui ont expliqué ma condition. Alors, je vous reviens un petit peu plus tard dans l'émission avec d'autres mythes à défaire.
Parfait. Des mythes que vous avez trouvés sur montougo.ca. Merci beaucoup, Yvan. On se retrouve après la pause avec une chanson de Marie-Céleste et ce sera aussi la chronique de Monique Kirouac.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Combien de temps avant la mort? Combien de temps avant la cure? Avant d'arriver à bon port? Avant d'escalader le mur? Combien de temps avant l'aurore? Combien de temps avant l'air pur? Avant d'abandonner le corps? Avant de retirer l'armure? Combien de temps? Les femmes et les enfants. Combien de temps avant l'hiver qui fera craquer nos peintures? Avant les printemps nucléaires qui vont nous éclater la lune? Combien de temps avant que la mer on aura noyé les matures? Avant qu'on redevienne poussière? Combien de temps avant le grand voyage sur une vieille plage loin des ouragans? Combien de temps avant que l'on naufrage? Passagers, équipage, les femmes et les enfants.
J'aime bien cette chanson de Marie-Céleste, « Combien de temps ».
Oui, moi aussi, Mathieu. Et si ça vous intéresse, Marie-Céleste sera au Franco de Montréal cet été en spectacle gratuit. Les Franco qui auront lieu du 12 juin au 20 juin, 37e édition. Monique, c'est à vous un article que vous avez trouvé dans La Conversation.
Oui, dans La Conversation, et c'est la chercheure Mar Estarayas, qui est chercheure en psychiatrie sociale et transculturelle à l'Université McGill, qui a rédigé cet article, donc, qui s'intitule « Les neurosciences permettent de comprendre ce que la nature provoque dans notre cerveau ». Alors, vous est-il déjà arrivé de ressentir un apaisement dès que vous entrez dans une forêt? Ou peut-être avez-vous remarqué que votre esprit se calme lorsque vous regardez la mer, un lac, une rivière? On sait depuis un certain temps, et beaucoup d'entre nous le sentent intuitivement, que se retrouver dans la nature nous fait du bien. Les neurosciences nous permettent désormais de comprendre pourquoi et ce qui se produit dans le cerveau dans ces moments-là. Mar Estarayas a récemment participé à la rédaction d'une revue exploratoire sur les aspects neuroscientifiques de l'exposition à la nature, et ce, en collaboration avec des collègues de l'Université Adolfo Ibáñez au Chili et de l'Imperial College de Londres au Royaume-Uni. Alors, cette équipe de chercheurs a passé en revue 108 études de neuroimagerie évaluées par des pairs sur l'exposition à la nature, et l'équipe a constaté que les résultats étaient cohérents. Lorsque les gens se retrouvent dans des environnements naturels, ou même s'ils regardent des photos de la nature, le cerveau présente des signes de réduction du stress, d'allègement de l'effort mental et d'une meilleure régulation émotionnelle. Alors, nous sommes nombreux, n'est-ce pas, à vivre des environnements qui maintiennent notre cerveau en état d'alerte, avec la circulation, les écrans, le bruit, l'agitation et une constante prise de décision. Si les villes sont de formidables créations humaines, elles sollicitent fortement notre attention et notre système de gestion du stress. La nature, en revanche, semble offrir un tout autre type de stimulation auquel le cerveau réagit différemment. L'une des conclusions les plus marquantes provient des études par électroencéphalographie, un EEG, qui mesure l'activité électrique du cerveau. Dans de nombreuses expériences, l'équipe de chercheurs a passé en revue, les environnements naturels provoquaient une augmentation des ondes alpha et theta. Celles-ci sont associées à un état d'éveil détendu. Les études ont souvent mis en évidence une diminution de l'activité bêta, qui, de son côté, est davantage liée à un effort actif ou à une charge cognitive. Pour résumer, le cerveau semble moins surchargé dans la nature. Il se calme, en d'autres termes. Cela ne signifie pas pour autant qu'il devienne passif ou somnolent. Disons plutôt qu'il passe d'une forme d'attention plus calme qui nécessite moins d'efforts. Observer le mouvement des feuilles, écouter le bruit de l'eau ou remarquer les variations de lumière sollicite l'esprit de manière différente qu'une rue bondée ou un flot de notifications. Et peut-être comme Michel Rivard qui a composé une chanson que vous avez peut-être entendue
Magnolia.
Hier, Hélène, Magnolia, ah, Magnolia, admirer l'éclosion des fleurs de Magnolia produit un effet des plus bénéfiques. Alors, certaines études indiquent que ces effets peuvent se manifester rapidement. Dans plusieurs expériences de EEG, c'est-à-dire d'électroencéphalographie, tant dans le monde réel qu'en réalité virtuelle, on pourrait ajouter certainement face à des photos, des changements sont apparus en l'espace de quelques minutes, parfois, Hélène, en seulement 3 minutes. Les effets sont généralement plus marqués lors d'une exposition plus longue, surtout si les participants passent au moins 15 minutes dans un environnement immersif. Ces chercheurs ont également passé en revue des études basées sur l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Ces techniques permettent de mesurer les variations du débit sanguin liées à l'activité neuronale et d'observer quelles régions deviennent plus ou moins actives. Ils ont ainsi pu constater la diminution de l'activité dans les zones cérébrales impliquées dans le stress et la rumination chez une personne qui avait passé du temps dans la nature. L'amygdale, qui aide à détecter les menaces et à réagir au stress, devient alors moins active. Et il en va de même pour le cortex préfrontal sous-génual, c'est une région associée aux pensées négatives répétitives. D'autres études basées sur l'imagerie par résonance magnétique frontale, l'IRMF, ont mis en évidence des modifications dans les réseaux impliqués dans l'attention et les pensées axées sur soi, notamment dans certaines parties du réseau du mode par défaut. Ces régions sont engagées dans l'introspection, le vagabondage mental et ce que l'on pourrait appeler le flux de fond de l'expérience intérieure. Dans la nature, bien ces régions se sont réorganisées de manière à favoriser un état mental plus calme, moins dispersé, en d'autres termes, moins énervé. En passant en revue ces 108 études, l'équipe des chercheurs a constaté une tendance largement cohérente. Ils nous présentent comme une cascade d'effets par laquelle la nature pourrait influencer le cerveau. Tout d'abord, les environnements naturels sont généralement plus faciles à traiter pour le cerveau. Leur forme et leur rythme suivent souvent des motifs fractales, comme ceux que l'on observe sur les côtes, dans les feuilles et les nuages, que le cerveau semble traiter facilement. Ça peut réduire la charge sensorielle et perceptive. À mesure que ça se produit, les systèmes liés au stress se stabilisent et le corps peut sortir du mode combat ou fuite. L'attention nécessite alors moins d'efforts et la gestion émotionnelle devient plus stable. Nous décrivons ce phénomène comme un circuit reliant la perception, la régulation du stress, l'attention et les traitements des informations liées à soi. Certaines études indiquent que, au-delà des effets immédiats de l'exposition, la nature pourrait également influencer le développement du cerveau à long terme. Ces études ne permettent pas de prouver que la nature est la seule responsable des différences, mais indiquent la possibilité que de petits effets réparateurs répétés au fil des mois et des années puissent s'accumuler pour favoriser la cognition et la résilience. Ainsi, lorsque le temps passé en plein air vous procure une sensation de légèreté, de clarté, ou vous aide à vous libérer l'esprit, sachez que cette sensation découle probablement du fait que votre cerveau est entré dans un autre état. En conclusion, si nous comprenions un peu mieux comment la nature agit sur nous et comment nous interagissons à notre tour avec elle, nous pourrions peut-être mieux la protéger. Parce que prendre soin de la nature, c'est aussi prendre soin de soi-même et des autres. Je vous invite donc à regarder un arbre, regarder une photo d'un arbre, aller marcher dans un parc près de chez vous pour retrouver ce beau sentiment de bien-être.
Ah oui, vous parliez de Magnolia, la chanson de Michel Rivard, et il en parle dans son spectacle « Un arbre ordinaire 50 semaines par année » et « Éblouissant 2 semaines par année » s'inspire donc de l'éphémérité de cet arbre qui sera en fleur pour très, très peu de temps avant de retomber dans l'anonymat. Alors, ça fait partie de ses réflexions. Et je pensais aussi, Monique, à André Sauvé. Je ne sais pas si vous avez vu son spectacle, mais André Sauvé et Michel Rivard observent la nature et elles s'en servent comme source d'inspiration. La nature qui donne des conseils, des leçons de vie et qui fait du bien, finalement, aussi.
Oui, et je peux vous assurer que mon chéri et moi, c'est ce que nous faisons vraiment tous les jours. Il a d'ailleurs photographié ce matin notre petit magnolia que nous avons planté l'année dernière pour suivre l'éclosion justement des bourgeons qui seront d'abord des fleurs.
Tell me where can I go? There's no place I can see where to go, where to go. Every door is closed to me. To the left and to the right, it's the same in every land. There's no place to go, and it's me who should know. Won't you understand?
La chanson « Where can I go » de Marlena Shaw.
Les brèves maintenant avec Monique et Yvan. Yvan, des mythes et non les mythes qu'on trouve là, qui peuvent s'attaquer aux vêtements, là, M-I-T-E-S, mais M-Y-T-H-E-S. Il faut bien épeler les choses.
Alors, un deuxième mythe, les exercices d'étirement, c'est utile seulement quand on s'entraîne. Alors, les étirements font souvent partie de ces choses qu'on associe aux personnes ultra organisées. Celles qui ont une montre intelligente, une routine et visiblement une discipline qu'on s'attribuera un jour. En attendant, on se dit qu'on s'étirera plus tard, après l'entraînement, quand on aura commencé à s'entraîner. Pourtant, pas besoin de transformer ça en séance officielle avec playlist réservée à cette fin. Quelques étirements glissés dans la journée, après plusieurs heures devant un écran ou entre deux tâches, suffisent pour sentir la différence. Les exercices d'étirement améliorent la souplesse, la mobilité et la flexibilité, tout en aidant à relâcher les tensions. Alors, on commence souvent à en avoir l'utilité dans des moments très ordinaires. Quand attacher ses souliers cesse d'être une petite épreuve matinale ou quand se pencher ne demande pas de calcul stratégique. Rien de spectaculaire, juste un quotidien un peu plus fluide, mais c'est déjà beaucoup.
Oui.
Alors, si vous êtes intéressé, vous allez sur le site montougo.ca et on suggère 5 étirements qui font du bien avec 5 i au mot bien.
Bon. Il y a 4 mythes. Est-ce que vous allez revenir avec une autre brève un peu plus tard?
Bien certain.
Super. Monique, les arbres sont-ils intelligents? S'entraident-ils?
Oui, je me suis dit que c'était une bonne suite.
Bien oui, on reste dans la nature.
On reste dans la nature. Alors, dans le monde scientifique, certaines connaissances ont acquis le rare statut de fait. Cela dit, il y a des controverses qui demeurent dans plusieurs domaines et elles sont souvent passionnantes parce qu'elles nous forcent à revoir des notions que nous tenons pour acquises, comme celle de l'intelligence et de l'entraide chez les âmes. Alors, Hélène, on peut se poser la question, qu'est-ce que l'intelligence?
Ouais.
Alors, il existe un tas de définitions, mais on pourrait la définir comme un ensemble de processus observés dans des systèmes plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permettent de comprendre, d'apprendre ou de s'adapter à des situations nouvelles. Donc, les animaux, les plantes, ou encore les outils informatiques maintenant d'apprentissage machine qu'on appelle aussi l'intelligence artificielle, font preuve d'une forme d'intelligence. C'est d'ailleurs l'argument repris par plusieurs chercheurs, dont le néerlandais Lindert van Loon, dans un article d'opinion publié en 2016 par le réputé Trends in Plant Science. Le professeur affirme que les plantes, et donc les arbres, disposent d'une certaine forme d'intelligence puisqu'elles réagissent à différents stimuli pour augmenter leur croissance ou leur chance de survie.
Si je bouge plus la fin de semaine, Yvan, est-ce que ça compense pour la semaine?
Ça fait du bien, de toute façon. Mais après une longue sortie à vélo ou une randonnée énergique, on peut ressentir une certaine satisfaction, celle d'avoir fait ce qu'il fallait. Le corps a travaillé, l'air frais a fait du bien, dossier réglé. Sauf que le corps a besoin de bouger souvent, pas juste de façon intense. Si seulement on pouvait mettre les bienfaits de la randonnée du dimanche en banque pour la semaine, mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas accumuler les bienfaits d'une seule séance intense pour compenser plusieurs jours passés assis. Car oui, la sédentarité comporte des risques, même chez les personnes actives la fin de semaine et qui atteignent les recommandations d'activité physique. Accumuler plus de 8 heures de sédentarité par jour est associé à une hausse du risque de mortalité prématurée comparable à celle liée au tabagisme et à l'obésité. Donc, pas besoin de transformer chaque jour en séance d'entraînement. Souvent, ce sont les petits gestes qui changent la donne. Se lever régulièrement, marcher quelques minutes, s'étirer, prendre l'air. Résultat, plus d'énergie, une concentration plus stable, un sommeil souvent plus réparateur. L'approche la plus payante reste simple. Combiner des activités plus longues, par exemple la fin de semaine, avec du mouvement réparti tout au long de la semaine.
Ça voilà. A plein de bon sens. Monique, grande question. En amour, le décor sert-il à la relation?
Qu'en pensez-vous?
Moi, j'en pense que quand rien ne va plus, le plus beau des décors n'aide en rien.
Oui, ça c'est quand la relation est bien établie, n'est-ce pas, Hélène?
Oui, ou est en train de se désétablir, pour inventer un mot. Mais sinon, quand on vit une relation amoureuse, c'est sûr que se retrouver devant, je sais pas moi, un magnolia ou un à la plage, c'est très inspirant.
C'est peut-être aidant. Alors, les psychologues de l'Université de Géorgie se sont penchés uniquement sur les toutes premières rencontres. Ils ont organisé 100 rendez-vous en assortissant 200 étudiants selon leur genre et leur orientation sexuelle. Pour se connaître et se rapprocher, ceux-ci devaient engager 45 minutes de conversation à l'aide de questions préétablies. Les chercheurs ont également pris soin de les réunir dans deux cadres différents. Une jolie pièce à la lumière chaleureuse avec fauteuil, plantes et parfums de lavande. D'un autre côté, un bureau exigu et encombré, éclairé d'une lumière crue. Le résultat casse tous les clichés, ou je pourrais dire limites, comme ceux de oui. Yvan, tous les clichés de la comédie romantique. Alors, même dans une pièce triste, les étudiants apprécient le moment partagé, ressentent attrait romantique et sentiment de proximité. Finalement, quel que soit le décor, Hélène, dans lequel ils se sont rencontrés, 24% d'entre eux ont échangé leur numéro et un mois plus tard, 8% étaient devenus amis ou amoureux. Les psychologues voudraient par ailleurs bien savoir maintenant ce qu'il en est sur le long terme.
Oui,
peut-être
c'est
ça. Que ça se défait, comme vous dites, Hélène, éventuellement.
Oui, mais restons romantiques.
Oui, quand même. C'est quand même agréable, une jolie pièce, puis
oui.
Un lieu agréable.
Toujours. Alors, allez-y, Yvan, avec le quatrième mythe que vous avez trouvé sur montougo.ca.
Oui, l'activité physique intuitive, c'est une approche trop douce ou inefficace. J'ai pas la moindre idée c'est quoi une activité physique intuitive, mais ça en parle dans le paragraphe. Bouger intuitivement peut sembler flou à première vue. Sans plan précis ni objectif chiffré, on peut même se demander, est-ce que ça compte vraiment? Pourtant, cette approche repose sur quelque chose de très concret, l'écoute des signaux du corps. Certains jours, l'énergie est au rendez-vous, d'autres, beaucoup moins. Parfois, monter un escalier suffit à nous convaincre que ce ne sera pas une journée de performance, on se comprend. Et c'est une information tout à fait valable. L'activité physique intuitive permet cet ajustement sans culpabilité.
Bon, on sait c'est quoi maintenant.
Oui. En misant sur le plaisir, la motivation profonde et la constance, elle construit une relation beaucoup plus durable avec le mouvement. Elle n'écarte ni l'effort, ni les défis. Elle propose simplement de les ajuster à la réalité du moment. Ce n'est pas de la paresse habillée en philosophie, c'est du pragmatisme. Parce qu'au fond, l'activité physique la plus bénéfique, c'est celle qu'on a envie de faire et qui nous fait du bien. Et cela peut évoluer dans le temps. L'important est de trouver des façons d'ajouter du mouvement à ses journées, à sa façon. Voilà pour le quatrième mythe.
Vraiment intéressant. Et Monique, on termine avec vous et une capsule linguistique. C'est une exposition qui est aux 2 ans. Ouais.
Oui. Alors, la tournure qui est aux 2 ans, Hélène, est considérée comme fautive.
Mm-hmm.
Au lieu de dire aux 15 ans, aux 15 jours, aux 2 heures, aux 6 mois, on devrait dire tous les 15 jours ou toutes les 2 semaines, toutes les 2 heures, tous les 6 mois. C'est une exposition, donc, on aurait pu dire qui a lieu tous les 2 ans ou qui est présentée tous les 2 ans. Ou également, c'est une exposition biennale ou bisannuelle. C'est tout simple.
Bisannuel, B-I-S?
Oui, B-I-S-A-N-N-U-E.
Ah, d'accord.
L-L-E. Voilà.
Okay. Est-ce que vous l'avez déjà analysé, l'expression « ça fait du sens »?
Ah, oh, ben on va le refaire.
Oui,
avec
hein?
grand plaisir.
Je pense que on est dû pour ça.
Oui. Incontournable.
Je vous souhaite une très belle journée. C'est presque... Ben, c'est la dernière, d'avril.
Oui. En Et avril, puis... ne te découvre pas d'un fil. Garde ton compte jusqu'à la Pentecôte.
Ah oui, c'est drôle ça. Et puis en mai, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qui nous plaît.
Oh, exactement. On joue dans la nature.
Ben, bon week-end à vous deux, puis on se retrouve la semaine prochaine, j'espère.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et on joint Dominique Tremblay. Dominique, vous êtes où? Bonjour.
Bonjour, je suis comme d'habitude au défi sportif, plus précisément à la compétition de boccia, puisque ça fait partie de mon travail régulier pour la Fédération internationale. Mais j'ai quand même des espions un petit peu partout sur les sites de compétition
oui.
du défi sportif qui me ramènent des belles petites histoires à raconter.
Vous avez tout un réseau. Alors, on a parlé toute la semaine que le défi sportif Altergo est important pour les jeunes, mais c'est aussi important pour les parents.
Oui, je trouve ça, le défi sportif est tellement rempli de belles histoires et des fois, c'est des parents qui passent des commentaires super, super cool. Souvent, un parent qui a un enfant handicapé, dans certains cas, les parents font certains deuils. Par exemple, ils vont passer plus de temps dans les rendez-vous médicaux au lieu d'aller à la traditionnelle pratique de soccer le samedi matin avec leur enfant ou encore la pratique de hockey ou de natation le dimanche ou le mardi soir. Ils savent pas trop qu'est-ce que le futur leur présente et le défi sportif le permet d'ouvrir les yeux puis dire hey, « En fin de compte, mon garçon, il est capable de faire ça. Mm-hmm. » Je le sais pas. Pour ma mère, bon, moi, personnellement, mon premier défi remonte à très, très longtemps. En 1987, je jouais au basketball, j'avais 13 ans. Puis ma mère m'a toujours traîné partout, puis toujours été encouragée à faire du sport. Donc, c'est quelque chose de vraiment spécial. Lundi dernier, vous étiez au centre Claude Robillard.
Oui.
Vous avez entendu Chloé Pellant-Lambert, mm-hmm. Qui a fait le serment de l'athlète. Et elle a maintenant 21 ans, elle a participé pendant plusieurs années au défi sportif. C'est probablement son dernier cette année. Et les gens du défi sportif l'ont rencontré avec son père Stéphane pour nous parler de leur relation avec le défi sportif et qu'est-ce que ça leur a apporté.
Bon, alors Dominique, on prévient nos auditeurs que le son n'est pas optimal, mais on comprend bien quand même.
Oui, s'il vous plaît.
Une grande fierté de voir notre enfant se réaliser à travers les épreuves qu'elle fait, mais aussi le sentiment d'être une grande famille, le défi Altergo. Ça développe son amour un peu pour le sport, de vouloir rester active, autant dans la piscine l'été. Elle s'est inscrite à du yoga, qu'elle fait régulièrement, elle ne peut pas manquer un peu de yoga.
Ouais.
Déjà hier, c'était hier, puis ça a été reporté, elle était triste un peu, hier
oui.
soir, mais bon.
Déjà, en tant que fille, ben, en tant que femme, ça me fait quelque chose, parce que j'aime ça, moi, me faire encourager.
Oui, on aime ça, hein? Les applaudissements.
Ça rajoute de quoi, là? Surtout là, quand mes parents sont là et me disent « Let's go, Chloé, t'es capable », là, ça vient me dire « OK, j'ai des gens pour m'encourager, ça me donne une énergie de plus. »
Pour performer.
On sait à travers quoi Chloé va traverser avec tous ses nombreux défis. En plus de la déficience visuelle, il y a d'autres défis associés. De la voir se réaliser, de défoncer les plafonds de verre, de défoncer les murs devant elle. Juste
d'aller
ça.
Chercher des nouveaux outils.
Oui, de faire sa place. Hein?
Oui, très belle place.
Donc, juste ça, c'est un sentiment. Merci, merci à vous de donner cette chance-là. Mais merci la vie de nous permettre de vivre ça. Mmh.
Les encouragements des parents, il n'y a rien qui bat ça.
Non, c'est vraiment spécial. Ma mère m'a accompagné à un championnat du monde en Angleterre et à un jeu paralympique à Sydney. En Australie, c'est des mémoires que je vais me souvenir toute ma vie.
Ah oui.
Ça a vraiment fait la différence dans ma vie d'athlète. C'est vraiment quelque chose quand les parents sont là pour nous encourager.
Quel est le prénom de votre mère, Dominique, si je peux me permettre?
Ben, elle s'appelait Janine. Elle est décédée il y a 3-4 ans.
Oh, Janine.
Mais j'avais une très belle relation avec elle et elle m'a toujours supportée. Et en fait, c'est surtout grâce à elle que j'ai réussi à accomplir tout ce que j'ai fait dans ma vie.
Ah, oui.
C'était une femme très spéciale.
Bel hommage à Janine qui est toujours dans votre cœur.
Toujours.
Alors, Dominique, la compétition se poursuit aujourd'hui.
Oui, bien, il y a la compétition de curling. Là, le tournoi à la ronde se conclut cet après-midi à 23 heures. L'équipe du Québec, il y a deux équipes du Québec là, qui participent à la compétition. L'équipe de le skip Karl Marquis de Sherbrooke est en première place dans la poule A et dans la poule B, et devrait facilement passer à la demi-finale. Dans la poule A, il y a une autre équipe du Québec avec le skip Serge Hamel. Ils sont présentement en quatrième place dans un pool de six. Ils vont quand même participer aux rondes éliminatoires, mais pour probablement septième ou huitième place. On leur souhaite bonne chance, mais Karl Marquis a déjà remporté plusieurs médailles lors des championnats canadiens de curling, donc il sera surveillé pour dimanche où il y aura la finale pour la médaille d'or. Donc, on va lui souhaiter bonne chance, on va surveiller ça. Il y a aussi, évidemment, les compétitions de boccia qui se concluent dimanche. Les finales individuelles auront lieu demain matin, pardon, et les compétitions de double BC3, double BC4 et en équipe BC1, BC2. Ça, c'est des termes de classification. Là, on pourra en reparler un peu plus tard. Mais donc, vont avoir lieu à partir de vendredi après-midi et se termineront dimanche. Donc, on leur souhaite bonne chance. Et il y a aussi les compétitions de basketball en fauteuil roulant qui vont commencer au cégep d'Édouard Montpetit vendredi soir. Donc, ça aussi, ça risque d'être très intéressant.
Gros week-end en vue, donc.
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup, Dominique. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci. Au revoir.
Mais je ne pleure pas, c'est une pièce musicale de Simon Boisseau.
Le 12 avril dernier, le parti du premier ministre de la Hongrie, Viktor Orbán, a subi une défaite historique. Après 16 ans d'extrême droite au pouvoir et autant d'années de recul démocratique, son adversaire conservateur et pro-européen, Peter Magyar a remporté une victoire éclatante. François Larochelle, ancien diplomate du Canada, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Pour donc apporter ses lumières sur le sujet. Est-ce qu'on dit Magyar?
En fait, je pense qu'on dit Magyar.
Magyar, merci beaucoup.
Mais bon, mon hongrois
n'est pas
particulièrement...
Non, mais je pense que je vais vous faire confiance.
Et pas particulièrement fort. Alors oui, effectivement, le parti de Peter Magyar, Tisza, a obtenu plus de 53 % des voix aux élections législatives du 12 avril, laissant le Fidesz du premier ministre sortant Orban loin derrière avec à peine 38 % Tisza a aussi obtenu une large majorité de sièges au Parlement. Ce résultat est remarquable, d'autant plus que la participation électorale a été de 80 % du jamais vu depuis la chute du communisme.
Ouais.
Au cours de ses années au pouvoir, Orban n'a cessé d'attaquer la démocratie et l'état de droit dans son pays. Il avait tour à tour réduit la liberté de la presse, muselé les oppositions et mis les institutions sous le contrôle de son parti ou de ses proches. La corruption y régnait. L'économie en Hongrie s'était transformé en un système de favoritisme. Mais en fin de compte, Orban a appauvri la Hongrie, a réduit sa liberté de manœuvre. Son parti n'a pas rendu le pays plus respecté, plus puissant ou même plus chrétien comme il le souhaitait. Il n'a finalement réussi qu'à exclure la Hongrie de l'Europe, tant sur le plan idéologique qu'institutionnel.
Parlez-nous donc du nouveau premier ministre, Peter Magyar. Qui est-il?
Il est âgé de 45 ans. En fait, c'est un ancien membre du parti d'Orban, le Fidesz. Il avait quitté le parti en 2024 parce qu'il critiquait la corruption endémique dans l'entourage du premier ministre Orban. Il a donc fondé son propre parti. Cet ancien haut cadre du gouvernement a donc réussi à rassurer les déçus du Fidesz en leur promettant d'être tout aussi conservateurs que le pouvoir sortant, sur les questions d'immigration notamment. Parallèlement, il a attiré les électeurs de gauche, fatigués des divisions des partis d'opposition traditionnels et qui étaient prêts à voter pour n'importe qui qui pourrait les débarrasser de l'extrême droite.
Alors, à quoi on peut s'attendre de ce nouveau gouvernement?
Bon, Magyar est considéré comme un conservateur pro-européen. On prévoit donc un rôle désormais positif de la Hongrie dans les institutions européennes, car Magyar veut récupérer les fonds gelés par la Commission européenne qui s'élèvent à 17 milliards d'euros, ce qui est quand même pas mal, en raison des dérives du pouvoir d'Orban. Avec Magyar, l'Union européenne peut donc s'attendre à ce que la Hongrie mette fin à sa politique de veto incessante sur l'Ukraine et d'autres sujets. D'ailleurs, l'une des premières décisions internationales du nouveau gouvernement hongrois a été de renoncer à son droit de veto contre le projet de prêt européen de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine que Orban bloquait, lui, depuis des mois. Cependant, M. Magyar a également indiqué qu'il continuerait de refuser de livrer des armes à Kiev et que la Hongrie continuerait de s'approvisionner en pétrole russe, notamment par l'entremise d'un pipeline qui traverse l'Ukraine. Sur le plan intérieur, le nouveau premier ministre disposera d'une marge de manœuvre considérable pour, on l'espère, rétablir l'état de droit qui était sa principale promesse électorale. Il vise aussi à obtenir le départ des proches de Orban, notamment le président de la République, ainsi que les présidents de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle. Tous ces gens-là s'étaient montrés, au cours des dernières années, des complices dans des reculs démocratiques subi par le pays sous Orban.
La défaite de Viktor Orban représente une perte importante pour l'extrême droite européenne, si on vous suit bien, là, et une perte aussi pour Donald Trump et Poutine.
Oui. En fait, la Hongrie va probablement perdre son statut de phare de l'international réactionnaire que Orban avait soigneusement construit à travers des groupes de réflexion et l'accueil de figures de l'extrême droite mondiale. Marine Le Pen, du Ralliement national en France, a été particulièrement influencée par Orban, qui lui avait apporté son soutien financier et politique. Cette défaite de Orban survient après les revers du Néerlandais d'extrême droite Geert Wilders, qui a été devancé aux élections législatives là-bas en octobre 2025, et de l'Italien Matteo Salvini, qui peine dans les sondages et fait face à une concurrence à sa droite. Mais il faut quand même être prudent, car chaque pays a ses propres particularités politiques. Il est donc impossible, je pense, à ce stade-ci, de généraliser ce résultat à toute l'Europe. En ce qui concerne Trump, ce n'est qu'au bout de 2 jours qu'il a finalement reconnu, et je cite, « c'est quelqu'un de bien ».
OK. Ça, c'est Trump qui dit ça.
Qui disait ça. Mais il faisait référence à Magyar et pas à Orban. Mais il a cependant ajouté, ouais, finalement, Victor, c'est quelqu'un de bien quand même.
Bon. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil.
Voilà. La réaction plutôt modeste de Trump face à la déroute de Orban s'explique par son implication personnelle dans sa campagne électorale. Il avait même envoyé son vice-président Vance à 5 jours du scrutin et avait lui-même appelé les électeurs par téléphone lors d'un meeting électoral pour les encourager à voter pour Orban. À Moscou, où Orban, qui était un pro-russe, s'était rendu à 2 reprises depuis le début de la guerre en Ukraine pour rencontrer Poutine, le porte-parole du Kremlin a simplement déclaré « Nous n'avons jamais été amis avec Orban ».
Ah, alors ces élections semblent confirmer la distance avec les États-Unis de Donald Trump, du moins pour l'Europe.
Oui, après l'affaire du Groenland et la guerre en Iran, cette élection hongroise semble le troisième signe en quelques mois de la fracture de la relation des Européens avec Washington. Tout a commencé début janvier lorsque Trump a revendiqué le Groenland et a menacé ses alliés européens. Ce fut un choc majeur qui a poussé justement les Européens et d'autres, dont le Canada, à s'unir contre lui. Leur pression a finalement fait reculer Trump, du moins pour le moment. Le 28 février, Trump et les Israéliens ont lancé une offensive militaire contre l'Iran sans aucun mandat international. Les alliés américains n'ont été ni informés ni consultés, malgré le risque évident qu'ils subiraient les conséquences du conflit. Lorsque la Maison-Blanche a demandé leur aide, ils ont répondu « ce n'est pas notre guerre » et ont tourné le dos à Trump. Le troisième épisode est celui de l'échec de la conquête idéologique. Orban était la figure de proue de ce qu'on appelle l'illibéralisme en Europe, qui inspirait Trump et ses semblables.
C'est quoi ça, l'illibéralisme?
C'est une opposition au libéralisme. Là. Le respect du droit, ça ne compte plus. La religion est plus importante. Il faut protéger les pays de l'immigration et tout ça. Là. C'est une approche d'extrême droite, en fait. Alors, disons que cette version de l'extrême droite n'est probablement pas morte, mais les supporters ailleurs en Europe ont sans doute compris que le soutien de Trump est maintenant contre-productif.
Donc, quelle est la leçon à tirer de tout ça?
Bien, c'est que rien n'est acquis à long terme, même pour des dirigeants autoritaires qui peuvent être évincés du pouvoir. Peut-être une leçon pour Trump, du moins pour les démocraties. En fait, c'est une bonne nouvelle et franchement, on en avait besoin en cette période de guerre incessante et d'instabilité internationale.
François Larochelle, ancien diplomate du Canada, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Se regarde sourire toute seule dans l'éclat des vitrines. La radio dans sa tête joue peut-être un thème de film. Elle a peut-être un rendez-vous, peut-être un amoureux. Et sur le trottoir, elle esquisse un pas de danse ou deux. On cherche tous un sens unique, un feu qui vire au vert, un oasis sous respirer, à l'ombre dans le désert, à l'ombre dans le désert. bouquet sur la table. Par la fenêtre ouverte, elle entend klaxonner la ville. Mais le silence de son téléphone est un ami fragile. On cherche tous un sens unique, un feu qui vire au vert. Un oasis où respirer à l'ombre dans le désert. Il a les mains sur le volant, les yeux sur un mirage. Il se demande si elle attend, si elle prend ses messages. Il repense à la fois d'avant, à toutes les autres aussi. Et dans la trace de ses essuie-glaces, il voit briller sa nuit. On cherche tous un sens unique, un feu qui vire au vert. Et sous-respirer à l'ombre dans le désert, à l'ombre dans le désert.
Michel Rivard, à l'ombre dans le désert.
Michel Rivard, l'auteur, compositeur, interprète, et j'ajouterais le philosophe, l'intellectuel, l'humoriste, le conteur, le poète, l'humain. L'humain précieux, le trésor national, grand, grand amoureux, Michel Rivard, qui présente son nouveau spectacle « Après, on va où? » Toute une question, ça. Le spectacle qui est présenté par Les Temps qui courent au Centre du théâtre d'aujourd'hui à Montréal, c'était soir de première hier et j'y étais. Grand privilège. J'ai apprécié chaque seconde de ce spectacle-là. On avait l'impression que le temps était suspendu. J'ai été happé dès le début par le récit, les chansons qui sont celles de son plus récent album qui s'intitule comme le spectacle « Après, on va où? » Michel Rivard, qui aura 75 ans le 27 septembre prochain, réfléchit à voix haute à la vie, à la mort, au temps qui passe, le temps qui passe si vite, surtout quand on s'approche de la fin. Là. Ça déboule. Il le parle de l'éternité, de l'idée de l'éternité qui est vertigineuse, qui l'angoisse, à l'amour aussi, l'amour qui le protège, l'amour de ses enfants, l'amour de les femmes qui ont marqué sa vie, l'amour qui est notre raison d'exister, finalement, selon lui, il a bien raison. Et il parle aussi de la nature, on en parlait tantôt avec Monique, la nature qui l'apaise, qui lui donne des leçons. Et quand on écoute la nature, quand on prend bien le temps de l'observer, on apprend plein de choses. Il aborde donc des sujets graves, des sujets profonds, et son approche est sensible avec des pointes d'humour. Hein. Quand vous connaissez Michel Rivard, l'humour fait partie de sa personnalité et pour notre plus grand plaisir. Il y a beaucoup, beaucoup d'intelligence et d'humanité dans ce spectacle-là. J'étais avec une amie qui me disait « Coudonc, c'est-tu son spectacle d'adieu parce que ça ressemble à un bilan? » Mais j'ai l'impression que Michel Rivard a encore des choses à dire. Il était en voix, en pleine forme. Belle mise en scène de Marie-Thérèse Fortin, qui était notre invitée la semaine dernière. Trois excellents musiciens. Et c'est un spectacle vivant, bien vivant, qui émeut et qui fait réfléchir à notre propre vie. Et donc, je vous le recommande, michelrivard.ca, pour avoir toutes les dates de spectacle. D'autres suggestions sorties, un événement unique dans le monde musical montréalais qui aura lieu le dimanche 3 mai, un concert inédit où plusieurs compositrices seront mises à l'honneur, originaires de France, d'Italie, du Mexique. Ces femmes au talent exceptionnel méritent d'être connues et reconnues pour leur contribution à l'enrichissement de la musique baroque des 17e et 18e siècles. Le spectacle s'intitule « Le baroque au féminin pluriel et est présenté par l'ensemble vocal Bac et Baroque. Les œuvres choisies par la chef Jennifer Y.M. Lee seront interprétées par les choristes de l'ensemble vocal Bac et Baroque qui seront accompagnés par 7 musiciens avec instruments d'époque. Si ça vous dit, ça se passe le dimanche 3 mai à 15h à l'église Saint-Laurent située au 805 avenue Sainte-Croix. Il y a des billets qui sont en vente sur le point de vente. Et puis à la porte aussi, c'est possible. Autre spectacle, cette fois-ci, les petits violons qui convient le public au concert de fin d'année du 61e anniversaire de les petits violons. C'est dimanche à 16h à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau sous la direction de Marie-Claire Cousineau avec Julie Daou à la présentation du programme. Un rendez-vous qui réunit l'ensemble des musiciens de l'école dont plusieurs vont monter sur scène pour la première fois aux côtés de l'Orchestre des petits violons et de l'ensemble Jean Cousineau, composé de musiciens professionnels actifs au sein de formations réputées. Pensé comme un triptyque, le programme traverse 3 territoires musicaux, l'Espagne, l'Amérique et le Québec, précédé du prélude de la Partita en mi majeur BWV 1006 de Bach qui en ouvre le voyage. Vous allez entendre du Bach, aussi du Vorjak, j'ai toujours de difficultés à prononcer, des V-O-R-A-K, Mathieu.
Vorjak.
Oui, Vorjak, merci. Jean Cousineau, Pablo de Sarasate dans la romance andalouse. Alors, ça se passe dimanche à la salle Pierre-Mercure au Centre Pierre-Péladeau. Et aussi, je salue le Festival du Jamelu qui a 25 ans cette année. Le festival est lancé dès le 1er mai sous le regard bienveillant d'Éric Noël, nouveau directeur artistique du Jamelu qui orchestre le spectacle d'ouverture Jamais Lune. Ici Hélène Denis, bon week-end, on se retrouve mardi. Merci Mathieu, portez-vous bien.